Bonjour, Gilles et Nicolas vont nous présenter le premier salon du livre libertaire qui va se dérouler ce week-end à B17 à Nantes. Nicolas, qu'est-ce qu'un livre libertaire ?
Moi, j'ai aucune idée de comment répondre à ça. Parce que quand on demande à quelqu'un s'il est libertaire, il y a un certain nombre d'éléments, mais enfin, c'est très difficile de répondre à ça. T'es anti-autoritaire, t'as plutôt un penchant autogestionnaire. Et après, il y a des trucs qui vont avec, mais je ne sais pas si c'est si évident que ça pour tout le monde. L'antisexisme, l'antimilitarisme. Il y a beaucoup d'anti, quoi.
Je sais pas. Oui, c'est des livres qui véhiculent des idées qui sont les nôtres, donc les idées libertaires. On pourrait définir le livre libertaire dans ce sens-là. C'était ça ta question, hein. Et effectivement, ce label qui pourrait paraître un label commercial, vive le livre libertaire. Bon, c'est comme ça. Il y a un certain nombre de maisons d'édition qui développent tout un travail de publication de textes anarchistes. Donc, on les qualifie de livres libertaires.
Oui, mais c'est pas essentiellement anarchiste. C'est plus large, non ?
Ça peut être plus large, bien sûr. Ouais, mais. Moi, ça m'intéresse pas trop, les définitions. En fait, je crois que les choses se définissent un peu par elles-mêmes. C'est-à-dire, définir un journal, définir un bouquin, c'est son contenu, quoi. Après, les intentions, on peut avoir tout le baratin qu'on raconte sur « moi, je suis comme ça, j'ai une grande bannière et tout ». Bouf, ouais. Donc, il y a des poètes, il y a des essais, il y a toutes sortes de bouquins d'entretien... qui vont s'inscrire dans une partie libertaire où peut-être la limite, ça va être des gens qui sont plus autoritaires dans leur fonctionnement, dans leur pensée. Mais bon, j'avoue que c'est un peu flou, moi, cette histoire de définition.
Des salons du livre libertaire, il y en a plusieurs en France, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans le mouvement libertaire et même aussi chez les marxistes et marxiens, il y a une tradition de lecture. Même, je lisais un bouquin récemment sur la collectivisation en Espagne. Même dans les villages les plus reculés, le militant, il lisait les brochures, il lisait les bouquins. Donc il y a une tradition de lecture et d'autodidactisme, on pourrait presque dire. D'ailleurs, on peut signaler que si, comme toute minorité, si les anarchistes ne font pas leur propre histoire, personne ne l'a fait. Hein. À Nantes, il n'y a pas de salon du livre. Donc, on s'est dit, pourquoi pas lancer ça ? Ça intéresse des gens. Nous, ça nous intéresse de développer la lecture de textes estampillés libertaires. Donc, voilà, dans cette logique-là, on a monté cette histoire.
Oui, en fait, là, ta question, elle est un peu marketing. Pourquoi, dans un paysage, faudrait exister, etc. Je pense qu'on s'en fout complètement. On aime bien les livres. On écrit, on lit, comme disait Gilles. Donc ça fait partie de notre culture commune. Et donc, de pouvoir découvrir des bouquins, des éditeurs, s'intéresser à comment ça fonctionne, cette édition militante, c'est la suite logique de si t'aimes bien les livres, t'aimes bien savoir comment on les fait, comment on les fait pas, comment ça marche pas. Et après, les contenus, puisque ce salon, il est articulé sur deux idées, qui est de s'intéresser à la manière dont on fabrique et on vend et on diffuse des livres, dans une société capitaliste, avec toutes les contradictions qu'il y a. Et deuxièmement, autour de contenu, et là, on a un peu concentré sur Benjamin Perret et deux opportunités, un documentaire qui vient de sortir, une biographie qui vient de sortir aussi.
Le samedi, il y aura un débat avec plusieurs éditeurs, encore une fois estampillés militants, et puis ils nous expliqueront chacun un peu de leur côté comment ils se débrouillent justement pour pouvoir éditer leurs bouquins dans un secteur concurrentiel. Il y en a pour qui c'est compliqué. Il y a des gens qui font des maisons d'édition qui prennent de l'ampleur, mais qui sont encore obligés de travailler à côté. Donc, tout ça, c'est aussi source de précarité. C'est pas un Eldorado, le livre militant. Hein. Et le dimanche sur Perret, donc il y aura. Dès le samedi, il y aura la diffusion du film de Rémy Ricordo sur Perret. Je ne sais plus le titre exact, mais c'est un très bon documentaire.
Ça s'appelle « Je ne mange pas de ce pain-là », poète donc révolutionnaire.
Et donc Barthélémy Schwartz présentera sa biographie de Perret, qui s'appelle « Benjamin Perret, l'astre noir du surréalisme », qui est paru chez Libertalia. Et ensuite, il y aura une conférence sur le rapport de Benjamin Perret au colonialisme, à l'anticolonialisme, tout son engagement qu'il a eu au Brésil, qu'il a eu au Mexique, en France aussi, par rapport à tout ça. Et puis ensuite, il y aura une table ronde avec Barthélémy Schwartz, l'auteur de la biographie, et puis Jean-Pierre Duteuil, donc éditeur de textes de Perret. Et qui voudra s'y joindre sans problème. Et donc, ce sera un débat sur la vie de Perret. Et évidemment, puisqu'on est à un salon du livre libertaire, Perret, étant poète surréaliste de tout premier plan, est aussi un révolutionnaire. Donc, on parlera de la conjonction des deux.
Peut-être le paradoxe sur Perret, c'est que je ne pense pas qu'on puisse le classer comme libertaire, il en est proche. Il est plutôt un dissident révolutionnaire, ça c'est clair. Très, très court passage au Parti communiste. Et après, il est dans les opposants au Parti communiste, donc autour de la sphère trotskiste. Hein, il rencontre Trotsky quand il est au Mexique. Quand il s'engage dans les brigades internationales pour aller soutenir la République espagnole contre Franco, il intègre les rangs du POUM. Le POUM, qui est un parti qui n'est pas strictement trotskiste, mais qui est proche, on va dire, hein, ou en tout cas plus large que simplement trotskiste. Et après, quand la répression s'abat sur toute cette partie-là en premier, hein, c'est le POUM qui a morflé le plus. Donc quand je parle de répression, c'est les communistes qui l'instrumentalisent.
Les staliniens,
voilà. Benjamin Perret se retrouve au sein de la colonne Durruti, donc qui est les anarcho-syndicalistes et les anarchistes espagnols, qui étaient l'endroit un peu de refuge où tous les gens du POUM ont pu avoir une espèce de protection aussi. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui est anti-autoritaire, ça clairement, et donc qui est assez proche des libertaires. Et puis qui, plus tard, va écrire, comme d'autres surréalistes d'ailleurs, dans le Libertaire. Hein, c'est ça hein,
c'est ça, oui. Oui, il y aura une collaboration entre le groupe surréaliste donc d'après-guerre, où il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui ne sont pas très connus d'ailleurs, Jean-Louis Bédouin, Schuster, Legrand et compagnie. Et Benjamin Perret participe aux écrits qui sont publiés dans le Libertaire, qui était à l'époque dirigé par Fontenisse. Et ils se sont fâchés à la fin. Donc ils ont publié pas mal de billets surréalistes, des textes assez intéressants d'ailleurs. Mais ils se sont fâchés à la fin par rapport à Camus, puisque Camus venait de sortir L'Homme révolté. Les anars ont toujours aimé Camus et les surréalistes étaient vraiment très critiques envers ce bouquin, puisqu'ils étaient attaqués dedans. Donc ça a été l'occasion d'une rupture. Mon avis personnel, après lecture des mémoires de Fontenisse et d'autres choses de cet ordre, je pense plutôt que c'est Fontenisse, qui était très autoritaire comme bonhomme, a préféré Camus au surréaliste, en fait. C'était simplement une question de stratégie, presque. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ils ont collaboré.
Quels sont alors peut-être les héritiers ou les auteurs d'aujourd'hui qui seraient figures de proue ?
Dans le domaine de la poésie ?
De la poésie ou du militantisme, de l'écriture militante ou des essais ou de la littérature ?
Alors là, pour l'écriture militante, c'est quand même une galaxie. Donc ça serait difficile de lâcher 3-4 noms en disant, voilà, des héritiers. Et après, c'est la notion d'héritage est peut-être pas idéale dans la mesure où chacun se construit avec les autres, mais aussi contre. Et donc la pensée, puis quand même un domaine où les gens ont une pensée critique assez acérée en général. Hein, on aime bien aller tarauder les contradictions et aller chercher les trucs. Donc dire qu'il y a un héritage, une filiation... Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtraient dans une formule comme ça.
Quelles sont les personnes qu'on pourrait mettre en avant aujourd'hui ?
Jacques Chirac.
Ça n'a pas de sens, ma question.
Là, le problème, c'est que il y a un peu un travers, c'est que l'idée de chercher des héros ou des martyrs, mais non, là, c'est pas des martyrs, mais des figures saillantes, et pas forcément la pente vers laquelle on va aller naturellement. Il y a des gens qui écrivent, voilà, c'est pas des maîtres à penser, hein, on pourrait dire ça, hein, il n'y a ni Dieu ni maître à penser. Donc c'est des gens qui font des contributions critiques, dont qu'on utilise, etc., mais c'est pas non plus des dieux de la pensée, quoi. Donc après, tout le monde, chacun puise dans plein d'auteurs, certains sur l'histoire, certains sur l'histoire contemporaine, la sociologie, la poésie, tout ce qu'on veut, les romans, voilà, c'est très divers. La science-fiction peut être un endroit où il y a une écriture poétique et politique. Enfin bon, donc c'est assez vaste quand même. Mais du coup, lancer des noms, moi je ne sentirais pas.
Ouais, moi non plus, je vois pas trop, mais un truc qu'il faut quand même dire, c'est qu'actuellement, le surréalisme est victime de son succès dans le sens où il est relativement connu des gens, notamment Dali, par exemple, en figure de proue, alors qu'il n'a pas été surréaliste si longtemps et que c'est plutôt un sinistre personnage. Les gens connaissent assez bien le surréalisme, ou en tout cas des clichés du surréalisme. Donc du coup, il y a comme un phénomène de classisme qui joue, ce qui fait que du coup les bobos et les gens qui s'intéressent aux lettres sans être bobos, tout le monde peut s'intéresser aux lettres, délaissent le surréalisme comme quelque chose de commun et de trop public, pas assez pour initier. Donc actuellement, moi je lis pas mal de poésie contemporaine, on peut pas dire qu'il y ait d'héritier du surréalisme en poésie actuellement. C'est pas un style à la mode.
Pourquoi mettre en avant Benjamin Perret ?
Il s'inscrit lui aussi dans un morceau d'histoire, hein, ses écrits ont une certaine valeur, hein. On a replongé un peu tous là, à lire des trucs de Perret que moi j'avais croisé, je ne me rappelais pas que c'était si bien, donc voilà, ça fait partie d'une sorte de patrimoine disponible, hein, mais comme tout un chacun a pu écrire à un moment donné et en fait partie. Et après, moi il y a des périodes que je trouve intéressante dans l'histoire de l'art, notamment le mouvement Dada, qui est relativement provocateur, qui tombe dans une époque particulièrement coincée sur l'armée, l'ordre bourgeois, etc. Et donc on peut avoir de la sympathie parce que c'était d'une certaine manière assez rigolo, et en même temps, ça fait date dans l'histoire de l'art. Et donc, il a fallu ce moment-là. Donc, voilà, c'est intéressant. C'est toujours intéressant d'aller regarder dans l'histoire. Donc, Benjamin Perret, il est là. C'est un des témoins de cette époque-là. Voilà.
Ouais, puis c'est un peu rendre justice aussi à Benjamin Perret, parce que quand on parle de surréalisme, c'est pas forcément la personne à laquelle on pense en premier, et comme il a un itinéraire singulier, on peut dire que c'est le plus politisé des surréalistes historiques, mais on va plutôt parler d'un Aragon, d'un Éluard, d'un Breton, et chez les peintres Max Ernst, Dali, Tanguy et compagnie. Et Benjamin Perret n'est pas non plus si connu, donc c'est l'occasion de le mettre un peu à l'honneur et surtout de le faire lire.
Mais pour ne froisser personne, il faut être mort pour qu'on puisse retenir.
Non, forcément, non, je ne sais pas. C'est un peu l'opportunisme qui fait que là, on a des trucs qui paraissent surpérés, notamment chez un éditeur qu'on connaît. Et voilà, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce que c'est ce personnage ? On peut peut-être s'y intéresser. Le Benjamin Perret, il y a un moment quand même qui fait que c'est... c'est un sale gosse et qu'il est complètement rejeté, c'est que à un moment donné, il publie un écrit, pas un bouquin, c'est un peu plus court, mais une sorte de pamphlet qui s'appelle « Le déshonneur des poètes » et qui chie consciencieusement sur les poètes de la Résistance, dans lequel il y a deux de ses anciens compagnons de route surréaliste qui sont Éluard et Aragon, communistes. Et donc, à partir du moment où Perret dit « la poésie ne doit pas être soumise à des idéologies, notamment nationales, puisque la poésie sur la résistance qui a été mise en avant, elle utilise ce biais-là. Mais comme le pouvoir, un peu dans l'édition et dans la presse, à ce moment-là, les communistes ont une place prééminente, et ben Benjamin Perret, il dégage du paysage, quoi. C'est vraiment le vilain canard.
Oui, surtout que dans l'honneur des poètes, le recueil de départ, c'est des poèmes qui non seulement sont très complaisants envers les valeurs de la bourgeoisie, mais qui en plus, d'un point de vue formel, sont complètement réactionnaires. Ils retrouvent des vieilles formes comme le sonnet, etc. Et même dans les images, c'est un peu des clichés du petit village français avec l'église et le toit qui fume. Enfin, et donc il écrit le déshonneur des poètes qui l'ont fait très mal voir. Il faut bien se rendre compte, à l'époque, c'est ce que disait Nicolas, mais les staliniens régnaient après-guerre en France sur les lettres, et pour plusieurs libertaires, ça a été compliqué. Pour Perret, ça n'a pas été simple, même s'il n'était pas strictement libertaire, pour Armand Robin, et ce n'est pas les seuls, hein, ça a été pas simple pour eux. Les staliniens avaient vraiment du pouvoir.
Alors, je retente une dernière fois. Il faut être mort pour être reconnu, il n'y a pas aujourd'hui de...
Parce que là, en fait, c'est ça, c'est peut-être l'inconvénient, c'est qu'on se dit, bah, c'est le poète maudit au sens entier du terme, mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse aussi, c'est que c'est un mec qui écrit très bien, qui rentre dedans au point de vue de la littérature, mais qui a une ligne politique qu'il tient et qui finit pas embourgeoisé, encrouté ou enlisé dans je ne sais quoi. Donc, bref, c'est un itinéraire intéressant qui raconte aussi l'époque qu'il a traversée. Après, est-ce qu'il faut être mort ? Ouais, on pourrait être mort, ouais, ouais. Je pense que c'est une bonne idée, ça. Ouais, on peut proposer ça. Proposons ça, ouais. Soyons morts.
Quand on est vivant, bah, on est dans un collectif, donc mettre une figure en avant, c'est problématique. Alors quand t'es mort, c'est plus simple.
Ouais, mais après, c'est pas la figure pour la figure, c'est ce que ça raconte de l'histoire autour. C'est-à-dire que c'est pas un individu sur un piédestal ou je sais pas quoi. Par exemple, les libertaires, il y a ce travers-là qui peut être avec la figure de Durruti. Durruti est un personnage important de la guerre d'Espagne, mais en même temps, c'est pas une icône, quoi. Il mérite d'être critiqué, comme tout le monde. Et donc, on se méfie toujours de la vénération, de se dire « Ah oh là là, grand homme, grand machin ». Bon, personne n'est sur un piédestal, sauf certains militaires en bronze. Bon, ça, c'est autre chose, mais la manière dont... on a retenu des grands personnages, on les a un peu mis hors sol sur des piédestals. Et personne n'a droit à un piédestal.
Oui, c'est évident. Puis en plus, je suis tout à fait d'accord. Et puis en plus, faut sortir d'une histoire faite autour de grandes figures historiques, autour de grandes batailles, et puis s'intéresser, les historiens font ça depuis l'école des annales, mais s'intéresser aux histoires longues et aux histoires des peuples et aux histoires des gens dont on ne fait pas l'histoire d'habitude, comme l'histoire des femmes ou l'histoire d'une minorité quelconque. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si les anarchistes font pas leur propre histoire, elle est pas faite, quoi.
sais pas, moi, le paysage, combien il y a de maisons d'édition qui seraient dans ce registre-là. J'en sais rien. Mais là, ouais, on va avoir des bouquins qui auront, 60-70 estampilles de noms d'éditeurs différents. C'est pas si mal. Mais après, il y en a qui vivotent, il y a des gens qui font deux bouquins par an, un bouquin tous les trois ans, et d'autres qui en font trois par mois. Voilà, c'est très divers comme production, avec des enjeux donc économiques qui ne sont pas du tout les mêmes.
On rappelle donc le rendez-vous.
Donc c'est les 19 et 20 novembre 2016. C'est à B17 qui se retrouve au 17 rue Paul Bellamy, au fond de la cour. Et le samedi, ça commence à 14h, à 13h, pardon, voilà, on prend le café. Et puis le lendemain, le dimanche, il y a une petite déambulation, on va faire un hommage à Perret en fanfare le matin, donc rendez-vous là à 11h, et le salon démarre en mangeant vers midi. Et donc, plutôt le samedi, plutôt sur l'économie du livre, la précarité, les contradictions, comment on fait pour éditer, vendre et puis faire connaître des bouquins, et le lendemain, plutôt autour de Benjamin Perret, le dimanche.
Oui, puis il faut préciser qu'il y aura à manger, à boire, on a tout prévu, pas de problème.
Ça va être convivial.
Ben, on espère, ouais, ouais. Normalement, ça devrait être bon ce qu'on mange, et puis il y a de la bonne bière. On a pas pris la bière premier prix, donc ça devrait être sympa.
Avec de la musique, avec des déclamations, ça va pas être un salon du livre monastique.
Voilà, une orgue de barbarie. Il y a des gens qui vont déclamer des trucs. Ça devrait être pas mal.
Merci à Gilles et à Nicolas pour leur libre participation à ce magazine.